divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Lucile Berland, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste en cette fin du mois de décembre 2021 pour que vous nous parliez de Fake Off, cette association au titre évocateur et joyeux que vous avez créée avec Aude Favre et Sylvain Louvet, association dont vous êtes à la fois cofondatrice, membre active et dont vous avez été secrétaire générale pendant 2 ans avant de devenir secrétaire générale d'une autre association dont nous reparlerons nécessairement. Informer n'est pas un délit, association qui lutte contre l'hyperconcentration des médias, sujet qui, à l'heure Bolloré, tient à cœur de très nombreux auditeurs. Aujourd'hui, parlons de Fake Off et peut-être d'abord de la jeunesse de cette association. Alors, quand et comment est-elle née ?
Eh bien, merci de nous recevoir, on est ravis. Alors, Fake Off, c'est une association au titre, comme vous dites, évocateur, qui a un petit jeu de mots entre fuck off, une insulte pour dire, entre guillemets, de manière un peu vulgaire, dégage, mais dégage aux fake news. Mm-hmm. Donc, une association qui lutte contre les théories du complot, les fake news, et qui essaye de transmettre des outils intellectuels de défense critique vis-à-vis de tout type de manipulations qui peuvent exister, notamment sur le web, mais pas forcément toujours issues du web. Et donc c'est une association de journalistes qui est née suite en fait aux attentats de 2015 de Charlie Hebdo, parce qu'il se trouve que plusieurs d'entre nous étions à ce moment-là, ou ils seront passés plus tard, dans une agence qui s'appelle l'agence Première Ligne Télévision, qui est une agence de presse télé qui produit des documentaires et des enquêtes pour la télévision, notamment l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet sur France 2. Mais ils produisent aussi d'autres types de documentaires. Et donc, qui étaient domiciliés dans le même immeuble que la rédaction de Charlie Hebdo, au même étage et en fait, voilà, tout proche. Donc après les attentats, évidemment, il y a beaucoup d'images qui ont circulé partout. Et on a vu fleurir des images où on a vu des journalistes réfugiés sur le toit des attentats, qui étaient donc des collègues. Des journalistes de première ligne, exactement. Mmh. Qui, eux, avaient entendu ce qui se passait, avaient entendu des tirs, avaient... Voilà. Et il se trouve que certains de ces journalistes, deux en l'occurrence, portaient un gilet pare-balles. Parce que, à Première Ligne Télévision, il y en a parfois qui vont sur des terrains de guerre, en Syrie ou ailleurs, et donc il y a toujours des gilets pare-balles à l'agence. Et en fait, ces images-là ont été diffusées massivement, notamment pour appuyer le fait, selon certains, que ces journalistes, évidemment, s'ils portaient des gilets pare-balles, c'est qu'ils avaient été au courant avant des attentats. Et donc on a réécrit l'histoire, ils ont réécrit l'histoire, ces personnes sur le web, en disant que nous étions finalement presque complices ou coupables d'avoir su et d'en avoir prévenu personne, etc. Puisqu'on savait nécessairement, puisqu'on avait mis des gilets pare-balles. Donc cet exemple-là, il est emblématique de toutes les fake news qui vont se retrouver après sur le web et depuis, ou parfois ailleurs aussi, en politique ou dans les médias. Et qui sont en fait fondateurs de notre volonté de se dire « Oulala, mais il y a un moment où peut-être qu'il faut qu'on sorte de nos rédactions et qu'on aille tisser du lien avec les gens qui parlent de nous. Il y a une telle défiance vis-à-vis des médias et qui nous mettent dans des cases ou qui nous disent complices des uns ou des autres en politique ou dans le monde économique ou là qui nous disaient complices d'un attentat pour aller raconter un petit peu les coulisses de ce que nous on fait, c'est quoi notre travail, comment on s'appuie pour travailler et puis tout simplement aussi pour leur transmettre des outils, des méthodes que nous on apprend à l'école de journalisme et ensuite sur le terrain pour mieux se préserver, mieux se protéger des mensonges, des manipulations, des théories du complot, et mener des enquêtes en fait, leur donner des outils pour savoir comment mener l'enquête, qu'est-ce qu'une preuve, quelle est la validité d'une preuve, comment la vérifier, analyser des chiffres, des données, des tableaux, recouper des sources. Et tout ça, c'est des choses qui nous paraissent, quand on est journaliste, un peu quotidiennes et banales, mais ça s'apprend, c'est pas inné. Donc aller les apprendre aux jeunes ou parfois aux adultes dans des conférences, dans des salles de classe, etc., c'est l'objectif qu'on s'est donné à Fake Off.
Alors, je comprends très bien la jeunesse de l'association, c'est-à-dire que des journalistes qui ont été en première ligne des attentats de Charlie et qui travaillaient pour une agence ont été accusés à tort d'avoir été au courant de l'attentat. Et donc, ces journalistes ont décidé de s'organiser pour faire la traque à la désinformation. Comment avez-vous
Comment fait au début,
oui, de Fekov, vous étiez un collectif de plusieurs et comment vous avez grandi?
Oui, et ben vraiment tout petit à petit en fait, ça s'est fait sur des années parce que on a commencé à se réunir après 2015, peut-être même qu'en 2016 les premières réunions où il y a des choses qui avaient mûri parce qu'avant tout ça ce sont des discussions entre nous sur mais comment faire pour on voit bien que la défiance vis-à-vis des médias grandit. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que journalistes pour voilà pour agir en fait, pour prendre nos responsabilités aussi quelque part. Et donc ça a été des réunions à n'en plus finir, comme toute constitution d'une association à ses débuts, avec des réunions sans fin. Et puis finalement, on s'est constitué en association véritablement qu'en 2018. Donc en réalité, ça fait seulement 3 ans, c'est une association qui est quand même jeune, qu'on fait vraiment massivement, j'allais dire, des interventions, plusieurs dizaines, voire centaines, par an dans les collèges, les lycées, principalement les collèges, aussi un peu en fin de primaire. Et des interventions, en volume c'est beaucoup moins, mais des interventions aussi à destination de public adulte, soit d'enseignants parfois, ou soit dans des mairies, des débats sur l'esprit critique, sur les fake news, les théories du complot, etc. On essaye de transmettre des outils et tisser du lien avec les gens pour essayer de retisser un lien de confiance. Voilà.
Alors, quels moyens avez-vous et concrètement, comment ça se passe dans les mairies, dans les écoles, les collèges et les lycées?
Comment ça
ce rapport de médiation à la désinformation ou d'éducation aux médias?
Ce qui se passe, c'est quelque chose d'assez fabuleux et c'est ce qui fait que les membres historiques et tous ceux qui les ont rejoints au fur et à mesure, je dis historiques, pas pour leur donner plus de... Simplement les premiers à être arrivés, j'aurais dû dire, et tous ceux qui sont arrivés après, généralement quand ils arrivent, ils restent. Et en fait, ils s'enrichissent énormément. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vit dans ces moments-là d'échange et de rencontre avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ou qui nous lisent, en fait, cette rencontre-là, elle est incroyable parce que on a l'impression de leur apprendre des choses, mais eux nous apprennent aussi énormément de choses sur nous, sur notre pratique. C'est tellement important que nous, les journalistes, on sorte de nos rédactions. Je dis nous, les journalistes, dans un nous un peu englobant, bien sûr. Il y en a déjà plein qui le font, notamment les reporters qui font beaucoup de terrain. Mais il y a aussi des journalistes qui ont tendance parfois, par le cours des choses, de leur parcours professionnel ou autre, à finir par peut-être rester un petit peu trop déjà parisiano-centré. C'est ce qu'on nous reproche beaucoup quand on sort ailleurs, en région parisienne, en Ile-de-France, ailleurs qu'à Paris, ou dans les régions de France, les autres régions, parce que Fekov se déplace aussi beaucoup en région.
C'est ça, c'est ce que vous dites. Hein.
Oui, on essaye vraiment.
Fekov, c'est d'aller partout sur le territoire.
Vraiment partout. Et c'est hyper important ça aussi, parce que des journalistes, sur les 35 000 à peu près journalistes qu'il y a en France aujourd'hui, beaucoup travaillent à Paris. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est une grande majorité.
Bien sûr.
Après, il y en a beaucoup en PQR aussi. Mais les journalistes
PQR.
De presse nationale, alors presse quotidienne régionale, donc un peu les journaux comme Ouest France, comme L'Est Républicain, Nice Matin, etc. Les journaux de région. Et donc, en fait, c'est pas si fréquent pour les gens qui n'ont pas forcément de journaliste dans leur famille, etc., d'avoir un journaliste en face,
bien sûr,
de pouvoir le questionner sur l'exercice de son métier, de pouvoir lui demander des comptes, de pouvoir lui demander comment il enquête et essayer de comprendre quels sont les ressorts, comment on identifie une information fiable, etc. Et les gens sont hyper demandeurs. C'est là où je dis que c'est un moment fabuleux parce que les gens sont vraiment demandeurs.
Alors, comment on identifie une information fiable et qu'est-ce que vous dites dans les collèges et les lycées aux jeunes gens qui vous interrogent là-dessus?
Alors, le format le plus commun qu'on a, je vais vous parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux et ce que j'ai fait le plus moi, c'est un format en 2 fois 2 heures d'intervention très concrète dans les collèges ou les lycées. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, en 2 fois 2 heures, on essaye de leur transmettre des outils très concrets. Par exemple, quelles sont les 5 infos les plus importantes quand on va parler d'un fait de société, d'un phénomène économique ou de quelque chose qui touche à la biodiversité? On demande aux élèves, on leur donne par exemple un gros article ou une vidéo de 10 minutes et de nous ressortir quelles sont les infos essentielles. Et ben c'est pas toujours facile. Enfin, on est parfois perdu, on sait pas forcément hiérarchiser, etc. Donc l'une des bases, c'est de leur faire comprendre que déjà, de quoi on parle, en fait c'est les fameux 5 W, les 5 who, when, why, where, etc. Donc en français, qui, de qui on parle, quoi, de quoi on parle, quand, où et comment. Et en gros, avec ces 5 informations-là, si déjà ils se posent la question, quand il y a une information qui leur arrive sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui m'écrit, quelle est la source, quel est l'intérêt de celui qui m'écrit, Est-ce que c'est un homme politique, par exemple, qui peut avoir intérêt à me passer un message politique? Est-ce que c'est un journaliste? Auquel cas, bon, c'est un journaliste, mais il peut avoir aussi des domaines de spécialité. Est-ce qu'il est compétent pour... Est-ce que c'est un expert? Et auquel cas, est-ce que c'est un expert, s'il me parle du Covid, est-ce que c'est un expert en mécanique quantique? Ou est-ce que c'est un expert qui est médecin, qui exerce depuis des années, etc.
Épidémiologiste ou pas.
Épidémiologiste ou pas, etc. Depuis combien de temps il exerce? Et en tout cas, est-ce qu'il s'exprime dans son domaine de compétences? Ça, c'est une question très basique, mais même nous, parfois, les journalistes, on se fait avoir. Donc là, on leur transmet ça et on leur demande, voilà, parce qu'on n'attribue tout simplement pas le même degré de confiance et de légitimité à quelqu'un selon d'où il parle et selon le parcours qu'il a eu. Et ça, voilà, c'est ce genre de petites clés-là, il y en a plein d'autres, pour en donner deux, trois autres exemples, mais qui sont fondatrices parce qu'en fait, quelque part, à partir du moment où ils ont compris ça, une fois qu'on leur explique et qu'on les exerce avec des exercices pratiques en leur disant « mais là, alors qui parle ?» etc. et qui se font avoir une ou deux fois, on leur dit « mais attendez, là, tu t'es demandé qui est cette personne, quel est son parcours, etc. Va voir, va te renseigner sur Internet, qu'est-ce qu'elle a fait avant, etc. » Et ben en fait, voilà, je dirais pas que c'est magique parce que faut pas se voiler la face, faut faire des piqûres de rappel, etc. Et ça va pas les bouleverser du jour au lendemain. Mais on sent qu'il y a quand même des jalons et des vraies prises de conscience qui sont posées pendant ces interventions. Et on a des profs, des retours de profs, des mois ou des années après, qui nous disent mais c'est génial parce que ça a été un déclic pour certains. Et il y a des pièges dans lesquels ils tombent plus quoi.
Par exemple.
Donc c'est génial. Bah par exemple de ne pas chercher qui leur parle ou quel est l'intérêt de la personne qui leur parle, de tomber dans des pièges ultra communs. Sur le « où » et le « quand ». Je vous parlais de la question du « où » et du « quand ».
Bien sûr.
Sur le
«
où » et le « quand », c'est ultra fréquent, on travaille beaucoup avec eux. Qu'il y ait des manipulations sur le web où on redonne toute une nouvelle comme elle était, qui était vraie à l'instant T, mais dont on change la date. Pareil pour le lieu. Deux exemples très précis. Par exemple, alors il y a régulièrement une photo qui ressort au mois de septembre, un thème un peu un marronnier, c'est l'allocation de rentrée scolaire. On en a encore beaucoup parlé au mois de septembre de cette année, en disant que voilà, elle pouvait être utilisée peut-être par certains, notamment des classes défavorisées, un peu n'importe comment, et qu'ils achèteraient des choses qui ne sont pas normalement ce qu'ils devraient acheter comme des fournitures scolaires. Bon, souvent sur les réseaux sociaux à cette période-là, il y a une photo qui ressort, qui est une photo où on voit des personnes, en l'occurrence, qui sont en plus sur cette photo noires de peau, et qui achètent des grands écrans dans des caddies. Donc nous, on a essayé de remonter l'enquête un peu pour voir d'où venait cette photo. Et est-ce que vraiment c'était au mois de septembre? Est-ce que vraiment c'était en France? Est-ce que vraiment elle datait de cette année? Eh bien, pas du tout. C'est une photo qui ressort tout le temps, qui a été prise en Afrique, dans un centre commercial, au moment des soldes. Donc forcément, c'est là qu'on voit à quel point les métadonnées, et en tout cas le sous-texte, la légende d'une photo est déterminante. Parce qu'aujourd'hui, on fait dire aux photos et aux vidéos absolument tout et leur contraire. Et nous, c'est hyper important, nous les citoyens, qu'on soit armés et qu'on se pose les questions pour pas gober ce qu'on cherche à nous faire croire. Parce que parfois, il y a des intérêts derrière.
Retrouver les sources d'une photo, est-ce que c'est si facile ?
Alors, très bonne question. Heureusement, aujourd'hui, grâce à la technologie pose plein de problèmes, notamment les algorithmes, les réseaux sociaux, etc. Mais il y a quand même pas mal d'atouts aussi. C'est que, par exemple, une photo, on peut retrouver aujourd'hui, grâce à deux outils qu'on donne aux élèves et qui sont ultra communs et pratiques, faciles d'utilisation, que sont Google Images et, ça y est, ça va m'échapper, voilà, je vais oublier, alors qu'on le dit toujours en intervention, un autre outil qui permet en fait tout simplement en deux clics, vous téléchargez vous l'image qui vous intéresse, qui vous a mis la puce à l'oreille et dont vous voudriez retrouver l'origine. Vous la téléchargez sur votre bureau, voilà, de votre ordinateur. Et vous la téléchargez dans ce petit Google Images ou ce petit, l'autre nom va me revenir. Et en fait, lui, ce moteur de recherche-là, va en fait retrouver les différentes occurrences sur le web où cette photo a été utilisée. Donc si par exemple, c'est une photo qui a été utilisée dans la presse parce qu'il y a eu déjà un article sur telle chose, vous allez pouvoir cliquer sur l'article et voir que c'est ben, par exemple Le Monde, le 2 février 2020, qui a publié cette photo. Donc là, vous allez peut-être accorder du crédit à cette photo. Par contre, si vous tombez sur un blog obscur de quelqu'un qui parle de tout et de rien, qui n'a l'air compétent de quoi que ce soit, et vous renseignez sur cette personne, elle est sous pseudonyme Georgette du 83, voilà, comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, bon bah ben, là, y a peut-être, ça doit peut-être allumer une petite lumière dans votre cerveau.
Bien sûr. Alors, il me semble que beaucoup d'auditeurs de France Culture et des membres de l'Union rationaliste se poserait la question de savoir comment pouvons-nous vous aider. Je reprends une question que Sylvestre Huette se posait dans le très beau numéro de Raison Présente, co-dirigé par Michel Leduc et Mathias Girel, La culture de l'ignorance, dont nous avons parlé à plusieurs reprises à l'antenne. Que puis-je contre l'ignorance? Que puis-je contre les fake news? Et comment pouvons-nous vous aider?
Que peut-on... Ben, merci de poser la question déjà et de vous intéresser à ce qu'on fait. Ben, écoutez, y a pas, on dit toujours à FECOF, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de formule magique face à la désinformation. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de fond, de longue haleine et qui n'est jamais acquis. Donc ça, il faut bien prendre conscience. Par contre, nous, notre pari à FECOF, c'est de se dire que non seulement plus tôt on éduque les jeunes et on leur donne des outils, plus facile c'est pour eux de se construire ce bouclier de défense intellectuelle face aux manipulations. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé d'axer énormément sur les jeunes à partir de 8-10 ans, dès qu'ils ont un téléphone portable dans les mains en fait, et dès qu'ils sont sujets et potentiels cibles des manipulations en ligne. Donc, ou de toutes sortes d'ailleurs. Donc voilà, commencer jeune et puis toute sa vie, nous on fait beaucoup l'éloge du doute, de la nuance, de l'enquête,
de l'esprit critique,
des preuves, de l'esprit critique en réalité. Et c'est vrai que ça touche beaucoup les jeunes, ça touche beaucoup les profs, et c'est des choses où s'il n'y avait pas tellement d'associations pour le faire dans les écoles, c'est vrai qu'il y en a qui sont gâtés parce qu'ils ont des parents, des profs très investis sur ces thématiques-là, mais finalement l'école aujourd'hui elle ne fait pas forcément énormément sur ces thématiques de désinformation. Donc c'est important qu'il y ait aussi quelques associations, et on est nombreux, il n'y a pas du tout que FECOF, qui interviennent auprès des jeunes.
Lucille Berlin, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Alors, je renvoie au numéro de Raison Présente, la culture de l'ignorance, co-dirigé par Mathias Girel et Michel Leduc. Je renvoie également au site de l'Union Rationaliste. Je rappelle que le 15 janvier 2022, nous remettrons le prix de l'Union Rationaliste à Irène Frachon, pneumologue, qui s'est battue pendant 10 ans pour dénoncer le scandale du Mediator et obtenir le retrait de ce médicament. Je remercie Peyret Legras et Félix Delacour qui ont rendu possible cette émission. Merci aussi à Claire Poinsignon qui s'occupe du site de France Culture et à Roland Lemoine qui s'occupe du site de l'Union Rationaliste. Et je vous dis au mois prochain.